Bonjour, bienvenue sur Bac FM 106.1. Vous êtes en compagnie de
Florine,
Enora,
Élise
et Alice,
élèves en classe de seconde générale et technologique au lycée Raoul Follereau de Nevers pour une revue de presse consacrée à la COP27. Ainsi, pour débuter l'émission, nous vous présenterons trois aspects de cet accord juridiquement contraignant qui fixe un objectif collectif ambitieux pour les jours de demain. Nous vous dévoilerons les pertes et préjudices climatiques qui feront l'état de quelques différents politiques, mais aussi l'agrément d'un progrès futur sur l'enjeu de la compensation aux pays pauvres, ainsi que l'instauration d'un programme des Nations Unies pour l'environnement. Sans plus attendre, chers collègues, pour répondre à une demande qui revient souvent, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est la COP27 ?
Très bonne question, Élise. Peu de gens le savent, mais la COP27, conférence des parties, est un sommet annuel réunissant les 196 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Par définition, c'est un accord dynamique qui organise le rehaussement progressif des engagements des pays tous les 5 ans, afin de fixer des objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique et de suivre les engagements climatiques de chaque pays. De plus, c'est une entente juste et solidaire qui prévoit d'aider les pays en développement à mettre en œuvre leurs objectifs. C'est un événement qui a une durée de 2 semaines.
Ainsi, Sébastien Treyer, directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales, énonce deux mondes concentriques de la COP27 dans le journal Ouest France. Une zone verte correspondant à la société civile où les journées organisées autour de conférences ou de séminaires très ouverts ne possèdent aucun caractère décisionnel. Selon quoi, il s'agirait d'un partage culturel, d'échanges, d'expériences et d'apprentissage collectif extrêmement utile. De même qu'une zone bleue pour les négociateurs et les gouvernements où le protocole est beaucoup plus précis.
Ainsi, du côté politique, à son arrivée au sommet de l'ONU sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte, le président de la République Emmanuel Macron a assuré que l'Europe et la France étaient sur la bonne trajectoire pour tenir leur objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est loin d'être le cas de deux grandes puissances qu'il a montré du doigt dans le journal du Bulletin quotidien.
Il faut qu'on ait les États-Unis et la Chine, qu'ils soient vraiment au rendez-vous de cette bataille, a-t-il insisté. Les Européens payent, mais on est les seuls à payer. Il faut donc mettre la pression sur les pays riches non européens. Leur dire « vous devez payer votre part », a-t-il souligné. Durant son allocation à la tribune de la COP27, le chef de l'État se voit défendre son triptyque sobriété énergétique, énergie renouvelable et relance du nucléaire, et plaide pour que les pays émergents sortent au plus vite du charbon.
Le président de la République a aussi défendu la solidarité financière avec les pays les plus pauvres, exposés aux effets dévastateurs du réchauffement climatique. Il a donc promis la mise en place d'un programme de préservation positive pour protéger les écosystèmes critiques, les forêts anciennes, les tourbières, les mangroves ou les zones humides.
En effet, plus de 90% des zones urbaines du monde sont situées le long des côtes, où la hausse du niveau des mers et des tempêtes menace les habitants et les infrastructures par des inondations et des vents violents. De même, plus d'un milliard de personnes vivent dans des bidonvilles et des établissements informels et se retrouvent donc particulièrement impactées et vulnérables face au changement climatique.
Le coût économique de ces pertes pourrait s'élever à 580 milliards de dollars par an en 2030. Mais jusqu'à présent, les pays développés ont refusé d'accepter un texte qui reconnaît leurs responsabilités et pourrait de ce fait avoir des conséquences légales. Ce dossier, très épineux, a été mis à l'ordre du jour de la COP27 in extremis, ainsi dévoilé dans la presse quotidienne. Ainsi donc, le temps des promesses et du non-respect des engagements est révolu. Et de notre devoir de mener une action décisive et unie, soutenue par des politiques et des ressources financières solides pour que le changement se produise.
Dans un communiqué conjoint, les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont annoncé avoir endossé le plan d'investissement pour une transition énergétique juste, présenté la semaine dernière par le gouvernement sud-africain. Ce plan chiffre les besoins financiers à 98 milliards de dollars sur 5 ans pour débuter la transition énergétique sur 20 ans de l'Afrique du Sud, explique un journal de la presse de la Tribune. Ils seront versés dans le cadre de divers mécanismes au cours d'une période de 5 ans, notamment des subventions, des prêts à taux préférentiels et des instruments d'investissement et de partage des risques, indique un communiqué du GPI Global Payment Innovation.
En ce qui concerne le climat, Christian de Pertuis nous dévoile que selon certains, le 1,5 degré serait irréaliste, au dire même des scientifiques. On attend un réchauffement de 1,5 degré d'ici une à deux décennies pour être ensuite légèrement dépassé. En aucune manière, cela signifie que l'objectif de 1,5 degré est inatteignable. Cela implique en revanche de prolonger les réductions d'émissions une fois la neutralité climatique atteinte, pour passer en régime d'émissions négatives et faire retomber ensuite la hausse du thermomètre à 1,5 degré, d'après la Tribune.
Enfin, le programme des Nations Unies pour l'environnement va déployer un dispositif de détection en temps réel les rejets de méthane. d'identification des sources et de suivi des actions correctrices. Centré au démarrage sur les grosses installations énergétiques, le dispositif doit s'étendre à l'ensemble des émissions, y compris celles de l'agriculture. Les États-Unis ont simultanément annoncé un renforcement de leur régulation interne, ce qui va dans le bon sens. Ainsi, la COP27 a entériné le principe d'un mécanisme dédié au financement des pertes et dommages. C'est une victoire imposée par les pays les moins avancés et les États insulaires qui ont rompu le front uni des pays riches.
Cependant, cette organisation s'avère être complexe. Avec près de 200 pays, ils sont donc organisés en groupes de contact qui sont composés de plusieurs pays sur la base du système multilatéral de l'ONU. Le directeur de l'Institut précise aussi dans le rapport Ouest-France que pour les participants des COP, l'enjeu est notamment de préparer un accord qui sera validé en assemblée plénière. Ce fameux arrangement est l'accord de Paris sur le climat. Les gouvernements infranationaux, c'est-à-dire l'autorité qui s'exerce sur un territoire plus restreint qu'un pays, se doivent de respecter cette entente. Ce fait permet désormais aux collectivités locales et régionales de générer la mise en œuvre d'une action climatique.
Toutefois, cette unification au sein des groupes des gouvernements locaux et des autorités municipales, LGMA, auprès des Nations Unies, ne joue toujours pas un rôle officiel dans les négociations mondiales sur le climat et dans la mise en œuvre de l'accord de Paris.
La communauté internationale est de plus en plus consciente que la bataille du climat sera gagnée ou perdue dans les villes d'ici 2050. L'urbanisation et la croissance démographique croissante associée au développement économique et à une prospérité accrue et devrait contribuer à l'augmentation des émissions dans les villes.
Pour terminer cette émission, limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré n'est pas simplement un objectif pour la plupart des communautés impactées, mais un droit humain fondamental. Les solutions apportées pour faire face à la crise climatique ne peuvent aller à l'encontre des droits des personnes ou aggraver les inégalités sociales. Par exemple, l'agroécologie, une solution portée par la majorité des communautés paysannes dans le monde, doit être promue au sein de l'enceinte de la COP, plutôt que des solutions promues par l'agrobusiness, une solution d'industrie fortement polluante. La conscience écologique vient d'une menace, non d'une espérance. Elle nous amène à repenser non seulement notre relation à la nature, mais notre histoire et notre civilisation. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, prononcé il y a de cela 21 ans Jacques Chirac, au sommet de la Terre en 2002. Ainsi, cette émission recèle d'une morale. Vivre en société, c'est s'engager à honorer ses fondamentaux, et pas seulement pour les autres, ça vaut aussi pour soi. C'est la fin de cette revue de presse, c'était
Florine,
Enora,
Élise
et Alice.
Avec la COP27, nous vous retrouvons bientôt sur BAC FM 106.1. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée.